Bonjour à tous. Ça va, vous voyez l'écran ou pas derrière moi? Vous voyez que ma tête. Je vous propose du coup d'ouvrir la parole de Dieu ce matin et de pouvoir un peu s'attarder. Cette semaine, il y a eu le pont de l'Ascension. Pour beaucoup de nos concitoyens, l'Ascension, c'est juste une période de l'année où on peut faire un grand pont. Mais pour nous chrétiens, il y a une autre symbolique. Et du coup, c'est quoi l'Ascension? Quelqu'un sait? Allez-y. Hein. Jésus qui s'élève dans la gloire, oui. Et du coup, ma question c'est, où se trouve Jésus aujourd'hui? Auprès du Père. Et pourquoi du coup il est monté au ciel? Est-ce qu'il en avait marre de nous? Pourquoi il n'est pas resté? Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'il monte? Oui, mais pourquoi alors? Ouais, c'est une des raisons. Intercéder auprès du Père. On allait sur, vous avez deux réponses. Première réponse, c'est pour qu'il nous envoie son esprit, qu'il habite et qui habite en chacun de nous. Deuxième raison, pour qu'il intercède auprès du Père. Il n'y aurait pas assez pour faire en une prédication ces deux points, donc ce matin j'ai choisi la deuxième partie. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, c'est mon titre de mon message. Nous avons un avocat auprès du Père et je vous invite à lire dans l'épître de 1 Jean, pas l'évangile de Jean, mais du coup 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir, ça permettra d'avoir aussi le contexte global. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Jusqu'au chapitre 2, verset 2. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Merci Père encore, mon Dieu, pour ta parole ce matin, que nous ouvrons, viens encore parler à nos cœurs, viens Saint-Esprit travailler, mon Dieu, au fond de nous-mêmes, c'est toi qui es capable encore de changer nos caractères, nos comportements, aussi notre compréhension de toi. Pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension encore de ton œuvre et de ta personne, Jésus. Amen. John Bunyan, c'est l'auteur du livre Voyage du pèlerin. Vous connaissez ce livre, Le Voyage du pèlerin? C'est un livre assez connu. Et il va raconter un moment dans sa vie une vérité assez biblique, qui peut-être d'ailleurs va vous parler, sans doute, pour vous qui êtes chrétien, et qui s'est imposé à lui avec plus de force que jamais. Voici ce qui lui est arrivé. Je lis ce qu'il dit. Un jour, alors que je traversais les champs, la conscience assaillie par des remords, sachant que je n'agissais pas toujours de façon juste, une phrase me traversa à l'esprit. La suivante. Ta justice est au ciel. Avec les yeux de mon âme, je vis Jésus-Christ à la droite de Dieu. Je me dis donc que quoi que je sois ou quoi que je fasse, Dieu ne pouvait pas prétendre que j'étais en manque de justice, puisque ma justice était à ses côtés. J'ai compris de plus que mes bonnes dispositions n'amélioraient pas ma justice, pas plus que mes mauvaises dispositions ne l'amoindrissaient. En effet, ma justice, c'est Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Une belle phrase. Une belle phrase qui peut nous parler, puisqu'on est régulièrement assailli de remords, voire de culpabilité, parce que nous continuons à pécher. Et ici, John Bunyan qui a écrit ce fameux livre, il est pareil que nous. Et sa remords, il avait des remords, la culpabilité, mais il va placer sa foi en Christ. Se rappeler que Christ ici est finalement son avocat auprès du Père, qu'il a tout accompli. Et cette petite histoire vraie, du coup, résume bien finalement la pensée biblique qu'on vient de lire par le texte de 1 Jean. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on va essayer de développer ce matin. Finalement, c'est quoi Jésus intercesseur entre nous et Dieu? Qu'est-ce que notre Sauveur fait au ciel pour nous qui sommes restés sur la terre? On dit qu'il est notre avocat, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour commencer, il faut revenir à la base sur le péché. Parce que s'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait rien de tout cela. Mais il y a le péché et Jean, dans son épître ici, en parle. Tous les êtres humains nés dans ce monde ont une nature pécheresse. Tous. Moi, vous, tous. Sans exception. Jean va dire ceci, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Jean dit quelque part que celui qui pense qu'il n'a pas de péché, eh ben, il vit dans un déni de réalité. Il est lui-même un menteur. Il va même insister en disant, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, nous faisons Dieu menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Autrement dit, si quelqu'un affirme, comme on entend souvent, hein, non, moi je suis une bonne personne, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, j'ai rien à me reprocher, l'apôtre Jean nous dit que cette personne vit dans un déni de ce qu'elle est réellement aux yeux de Dieu. Puisqu'elle est pécheresse, elle est pécheur, elle est mauvaise. Et que la vérité, ça c'est le deuxième point, n'est pas en elle. Ça va? Bon, vous inquiétez pas, hein, ça casse l'ambiance, mais on est tous dans le même panier. Donc quelque part, c'est pas voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Malheureusement, mais c'est comme ça. Nous sommes tous pécheurs, mais pour tous ceux finalement qui ont accepté et qui ont mis leur foi en Dieu à travers Jésus-Christ, Dieu les purifie de tout péché. Du coup, ceux qui ont mis leur foi en Dieu sont purifiés et pardonnés par le seul et unique moyen, la foi en Jésus-Christ. Pas parce que l'on fait de bon ou de mauvais, non, uniquement par la foi. Bien sûr, cette acceptation de Christ entraîne une conséquence, c'est une vie de sainteté. Le chrétien doit marcher dans une vie de sainteté. La purification et le pardon reçu par la foi nous poussent à tout faire pour ne pas pécher. Et Jean va dire ceci, « Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Si nous disions que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » C'est difficile, hein, ce verset. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Du coup, on peut se dire, mais qui marche en communion avec le Seigneur? Puisque nous péchons régulièrement. Ici, le terme qui est employé, c'est celui qui entretient une vie dans le péché. C'est pas celui qui pêche, parce que ça nous arrive à tous, mais celui qui sait qu'il pêche et qui continue de pécher. Dans l'exemple, dans la Bible, il y a le roi David, qui va convoiter la femme de son prochain, Bathsheba, il va tuer du coup le mari, et il va continuer, et voilà, le péché va grandir en lui. Et à un moment, il va y avoir à passer la case repentance, et cet homme va se repentir. Mais tant que du coup, il entretient le péché, il n'est pas en communion avec Dieu. Ce que Jean dit ici, c'est que si Dieu est lumière, et que Dieu habite en nous, on ne peut pas vouloir vivre dans les ténèbres. Il ne peut pas y avoir de compromis dans nos vies. Au verset 6, il va rajouter ceci. « Celui qui déclare demeurer en Dieu doit marcher comme le Seigneur a marché. » Et du coup, toute l'orientation de la vie du chrétien est changée, avec comme conséquence la sainteté et la gloire de Dieu, en mettant à mort le péché dans nos vies. Le but de l'apôtre Jean, c'est de nous garder du péché, de nous en tenir le plus loin possible. Il ne veut pas que nous prenions le péché à la légère. Bien souvent, ça peut être notre tendance. En tant que chrétien, on peut se dire on est sauvé par grâce, et du coup, se laisser avoir par des choses qui n'ont pas lieu d'être dans nos vies. Pourtant, plusieurs peuvent raisonner de la façon suivante. Puisque tout le monde a péché, et on pourrait raisonner comme ça, hein. Puisque tout le monde a péché, pourquoi faire des histoires avec cela? Quelle est l'utilité de lutter contre quelque chose qui est en réalité impossible à éliminer complètement? Pourquoi s'en faire? Et on pourrait se dire, la perfection est impossible, c'est donc pas la peine d'essayer de l'atteindre. Et du coup, je renonce à lutter contre moi-même, contre mes désirs, contre mes envies, qui sont mauvais. Et je me permets des écarts de conduite, quand ça fait mon affaire. Quelqu'un qui pense comme cela n'a pas connu Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean qui le dit. Et du coup, il s'agit pour nous, en tant que chrétiens, de pouvoir se remettre régulièrement à jour dans la présence de Dieu pour se dire, Seigneur, je suis fragile, je suis faible, mais viens m'aider. Et le Seigneur est celui qui est capable de venir nous aider. Si ne jamais pécher est impossible, le progrès vers le but de ne jamais pécher est possible, puisque Jésus, du coup, nous demande à tendre vers cela. Et c'est la direction dans laquelle nous, chrétiens, nous devons regarder, essayer de nous améliorer de jour en jour, de grandir en sainteté de jour en jour. Le péché ne rend personne heureux. Et voilà, je ne vais pas vous faire, on le sait tous, celui qui pêche, quelque part, il sème la mort dans sa propre vie. Par contre, être affranchi du péché nous procure un immense bien-être, puisque nous sommes en communion avec le Seigneur, et que nous pouvons vivre une vie beaucoup plus équilibrée, libre de toute chaîne de l'esclavage. Ça va ? Premier point, du coup, c'est le péché. C'est important, du coup, de cerner la situation, et du coup, pour nous, chrétiens, ce que ça implique. Et qu'arrive-t-il, du coup, quand nous péchons ? Puisque, du coup, il nous arrive de pécher. Il vous arrive, non, de pécher ? Bon, je sais pas, peut-être, j'ai pas besoin de... Vous inquiétez pas, hein, moi aussi ça m'arrive. Hein. Donc il n'y a pas besoin de... On est tous dans le même lot ici, il n'y a pas besoin de regarder le voisin. Voilà, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petite ou grande tâche. Hein. C'est la même tâche pour tout le monde. Qu'est-ce qui arrive du coup quand nous péchons, quand nous chutons ? Eh bien, quelque part, dans son grand amour, Dieu a prévu un moyen de nous relever, de nous remettre sur sa bonne voie. Le premier moyen, et ce serait une occasion de le développer dans une autre prédication, c'est que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Et que cette présence de Dieu dans nos vies, Dieu, ce n'est pas la présence, c'est Dieu qui habite dans nos vies, est capable de nous faire changer d'attitude, de nous rendre compte que ce que l'on fait est mauvais, et de nous remettre sur le bon chemin au-delà même de nos forces et de nos compréhensions. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais du coup, quand on passe du temps avec le Seigneur, et des fois même quand on est fatigué, mais quand on est sensible du coup à la voix de Dieu, le Seigneur est capable de faire à notre place, et d'agir à notre place. Ce qu'il faut, c'est un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé qui aime le Seigneur. C'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est qu'il y a un avocat qui nous défend. Jésus-Christ, qui est monté dans le ciel auprès du Père, nous défend. Jean dit ceci. « Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » Et Jean sait que cette phrase, on ne peut pas juste s'arrêter à ça, puisqu'on pêche. Il va dire ceci. « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Une fois qu'un pécheur a été justifié par Dieu, il est entré dans la famille de Dieu. Du coup, il est uni à son Dieu comme à son Père. Et s'il pêche, et si vous péchez, si nous péchons ce matin, on n'a pas besoin d'une autre justification de Dieu. Puisque notre salut est assuré une bonne fois pour toutes. Amen. C'est dur hein, à se le dire, mais le sacrifice de Christ suffit. Jean, il ne dit pas à chaque fois que vous péchez, Jésus-Christ, il remonte sur la croix, il revient sur terre. Non, ça s'est passé qu'une fois. Hein. Il y a 2000 ans, et Jésus, il est parvenu. Hein. Puisque ce sacrifice, quelque part, ici, pour nous, il y a un combat entre notre propre chair, la justice aussi humaine. Justice humaine qui n'a rien à voir avec la justice de Dieu, puisque Dieu, c'est par la foi seule qu'on est justifié. La justice humaine, c'est les actes. Tu fais une bonne action, t'es bien. Tu fais une mauvaise action, t'es pas bien. Mais Dieu ne considère pas comme cela. Et du coup, pour nous, il s'agit de nous positionner et de nous dire que malgré que nous péchions, je suis justifié par Dieu. Cela ne doit pas justifier le fait que je dois continuer à pécher dans ma vie ou entretenir des choses qui ne vont pas. Mais ça ne doit pas non plus me faire vivre dans une culpabilité morbide. Dire je suis, parce qu'on peut, ça peut arriver. Hein, j'en connais. J'ai été d'ailleurs dans ce cas. Moi, je me suis baptisé en 2005 et 2005 à 2010 à peu près, pendant 5 ans. Hein, pourtant, j'étais baptisé. Hein, j'avais une compréhension de Dieu plutôt fausse, puisque je disais oui, Dieu m'aime, mais en fait, dans ma vie, c'était un combat par rapport à la... Dès que je péchais, pour moi, j'étais perdu. Hein. Jésus revenait, pour moi, c'était l'enfer direct. J'avais rien compris. Et en 2010, il y a eu un frère qui... Et ça m'a ouvert les yeux sur l'évangile, le cœur de l'évangile, finalement. Je suis sauvé pas par ce que je fais, de bon ou de mauvais, mais par ma foi en Christ seul. Et ça, ça doit nous libérer. Ça libère le chrétien de tout joug, puisque Jésus-Christ, quelque part ici, a pris notre place. Si nous péchons, finalement, Jésus est là auprès de Dieu pour nous rappeler ce que lui a fait. Et Jésus répond en faisant taire les accusations et les charges portées contre nous. Ces charges qui viennent de nous-mêmes, de notre culpabilité, mais qui peuvent aussi venir du diable. Et nous rappeler du coup en tant que chrétiens, mes frères et sœurs ce matin, ce que Christ a fait. Quand la culpabilité grandit de manière disproportionnelle, savoir la faire taire par l'œuvre de Christ à la croix. Quand la conscience nous travaille, c'est autre chose. Hein. Quand la conscience nous travaille, c'est bien, faut pas la taire, ça permet de changer. Mais quand c'est la culpabilité, elle donne rien de bon. Et pour nous, il s'agit de la taire et de pouvoir nous remettre en question de manière juste et appropriée. Dans nos vies, et puis la Bible en parle, il y a un adversaire qui s'appelle le diable. Déjà que quand nous péchons, alors il y a aussi nous-mêmes, hein, il n'y a pas que le diable il a bon dos. Mais il y a aussi un accusateur qui s'appelle Satan. Jean va en parler dans l'Apocalypse en disant c'est l'accusateur des frères, qui les accuse devant Dieu jour et nuit, Apocalypse 12. Et du coup, il ne faut aucun doute que Satan va utiliser la culpabilité pour justement nous freiner dans notre relation avec Dieu. Nous dire, regarde comment tu t'es conduit. Là, ce matin, tu viens à l'église, comment tu peux te dire chrétien après avoir fait ça? Tu n'as pas le droit de te retourner devant Dieu. Dieu a payé un grand prix et toi, tu continues à vivre une vie complètement délabrée. Tu dis que tu marches dans la lumière, mais en fait, c'est pas vrai. Et quelque part, pour nous, il s'agit de se remettre en question, hein, de se repentir. Mais de pas non plus que cette repentance arrive du coup à un point où c'est la justice, notre propre justice. Notre salut est assuré auprès de Dieu. Et cette question du diable ou de nous-mêmes, hein, est-ce que finalement Dieu m'a vraiment pardonné, on doit la taire. Jésus, par son sacrifice, finalement a tout pardonné, tout péché. Il y a une belle phrase, un beau verset, c'est Paul qui va dire « Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. » Notre avocat, du coup, le Christ, défend notre cause. Il prend notre parti devant le Père, Dieu le Père, et il combat les arguments de Satan et de nous-mêmes aussi. En faisant valoir ici une œuvre que Jean va appeler l'œuvre de substitution. Est-ce que vous savez c'est quoi? Quand on parle de substitution, qu'est-ce que ça veut dire? À notre place, ouais. À notre place. Quelque part, le Christ ici a pris notre place. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, on vient de le dire. Nous sommes tous pécheurs et Dieu est saint. Et Dieu est saint, il est juste aussi, et il va dire ceci, voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Mais vu que nous sommes pécheurs, on ne peut pas racheter nos propres fautes, c'est impossible. Nous sommes mauvais, il faut quelqu'un de parfait. Le seul qui est parfait, finalement, c'était Dieu, et du coup, c'est pour ça que Dieu lui-même, alors qu'il était offensé par nos fautes, s'est mis lui-même en solution, en s'incarnant sur terre par Jésus-Christ, et en s'offrant en sacrifice pour tous. C'est pas un truc magique. C'est que du coup, en mourant à la croix, Jésus parfait prend notre place. Parce qu'il est humain, il partage notre humanité. Et du coup, en prenant notre place, quand Dieu nous voit, c'est Christ qu'il voit. C'est ça l'œuvre de substitution, très rapide. Hein. Mais c'est ça le cœur de l'évangile, hein. C'est ce que nous croyons. Si vous le découvrez ce matin, ben voilà, vous découvrez du coup le cœur de ce qu'est le christianisme et de ce que la place finalement de ce que Christ a fait. Alors comment Jésus nous défend-il? Est-ce que c'est un avocat comme on prend un avocat dans le monde? Il fait une plaidoirie? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Puisque Jésus-Christ est Dieu, comme Dieu le Père est Dieu, ils forment une unité. Finalement, ici, Jean présente quelque chose pour nous, chrétiens. En disant, quand nous pensons être perdus, et ne plus être sauvé en fonction de nos actions, nous rappeler que Jésus-Christ a été validé par le Père, parce qu'il déjà il est ressuscité des morts, et que par sa résurrection, Dieu le Père a validé le sacrifice qu'il a fait. Et la deuxième validation, c'est son ascension de cette semaine. En étant enlevé auprès du Père, il a tout accompli pleinement, et du coup, Jean rappelle, déjà aux premiers chrétiens de l'époque, et que si la culpabilité est là, de se rappeler que Jésus-Christ est auprès du Père, et que par son œuvre et sa personne, il défend notre cause. Est-ce que Jésus-Christ, du coup, nie nos fautes? Non, il ne les nie pas. Il invoque, comme je disais, sa substitution, le fait qu'il a pris notre condamnation et porté nos péchés à notre place. Il les a ôtés, il les a fait disparaître. Notre avocat, du coup, qui est Jésus, dit « Seigneur, ces gens sont innocents, ils ne sont pas coupables. » Alors, c'est pas ce qu'il dit, non? C'est pas ce qu'il dit. Ce serait un mensonge, puisque nous sommes coupables. Notre avocat ne plaide pas pour que nous sommes, parce que nous sommes innocents. Il reconnaît notre culpabilité. Et Jésus sait que nous sommes coupables. Mais il présente son œuvre d'expiation comme motif de notre acquittement. Est-ce qu'il essaie de nous excuser en disant il faut tenir compte des circonstances atténuantes? Non, ce serait aussi un mensonge. Il dit plutôt j'ai subi le jugement qu'il méritait. À leur place, tout est payé une fois pour toutes. C'est chouette, hein? Comprendre et saisir cela, pour toute personne, c'est libérateur. Et ça permet de s'approcher de Dieu de manière libre et complètement libérée et apaisée. La confession de foi de Heidelberg, je ne sais pas si vous la connaissez, voilà, une confession de foi chrétienne, il y en a plusieurs, hein, elle va parler un peu de cela de manière assez juste. J'ai mis le texte, hein, je crois, voilà, c'est un peu petit. Je vais vous la lire. « Parce que Jésus-Christ a totalement payé pour mes péchés, Dieu ne veut jamais plus se souvenir d'eux, ni de ma nature corrompue, contre laquelle j'ai à combattre pendant toute ma vie. Et il me donne, par grâce, la justice de Jésus-Christ, afin que je ne vienne jamais en jugement devant lui. Quoique ma conscience m'accuse d'avoir gravement péché contre tous les commandements de Dieu et de n'en avoir jamais gardé aucun, et d'être encore continuellement enclin à tout mal, Dieu cependant, sans aucun mérite de ma part, mais par pure grâce, me donne et m'impute l'œuvre parfaite de restauration, la justice et la sainteté du Christ, comme si je n'avais jamais commis ni eu aucun péché, et comme si j'avais eu moi-même cette parfaite obéissance que Jésus-Christ a observée pour moi, à la seule condition que je reçoive ce bienfait avec un cœur croyant. C'est une belle confession de foi, qui montre finalement ce que le chrétien vit. C'est pas un innocent, nous ne sommes pas innocents ici. Nous sommes coupables, mais quelqu'un nous a rendus innocents. Plutôt acquittés. Innocent serait pas juste. Il nous a acquittés de nos fautes en prenant notre place. Dieu lui-même a pris notre place. Ces certitudes chrétiennes, ce matin, là, c'est un bon rappel, et l'ascension, c'est le rappel de tout cela, doivent apporter à nos âmes un calme et une paix sereine. Une force que rien d'autre ne peut nous procurer, puisque nous sommes justifiés auprès de Dieu. Elles doivent nous encourager, donner de la joie, nous encourager aussi dans nos moments de faiblesse, quand nous chutons, nous encourager aussi à persévérer, à demeurer dans une vie de sainteté. Mais voilà, cette vie de sainteté, elle est faite de haut et de bas. Et dans ces moments de bas, c'est ne pas laisser finalement la mort s'installer. En se rappelant, oui, ok, là en ce moment c'est dur, je combats quelque chose peut-être, ou j'ai du mal avec quelque chose, mais je veux croire à ce que Jésus a fait. Il sait, ah, c'est un texte biblique, hein, il sait de quelle poussière nous sommes faits. Et se rattacher à cela, Dieu n'est pas celui qui vient mettre un joug plus lourd que ce que nous avons, parce que ce joug, il l'a pris, justement. Et si nous vivons encore sous un joug de culpabilité, quelque part, nous ne vivons pas la croix. Et nous n'avons pas pris la mesure, finalement, de l'œuvre de Dieu à la croix. Comme je le disais tout à l'heure, si Dieu n'avait pas été satisfait de l'œuvre expiatoire de Christ, le fait qu'il ait pris notre place, il n'y aurait pas de salut. Il n'y aurait pas eu de résurrection, il n'y aurait pas eu d'ascension, il n'y aurait rien eu. Mais parce qu'il y a eu ces événements, quelque part, Dieu le Père a validé la démarche, finalement, que d'ailleurs lui-même a entrepris, puisque c'est Dieu le Père qui va envoyer. Attestant, du coup, finalement, l'œuvre parfaite du salut de Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux va dire ceci, « Christ est entré dans le ciel afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Une bonne fois pour toutes. J'aime bien ce terme, une bonne fois pour toutes. Et devant Dieu, du coup, il fait valoir finalement le prix qu'il a payé. C'est comme si ce sacrifice nous disait en permanence, et comme si Jésus disait, voilà, « Père, souviens-toi des mérites du sacrifice de ma mort, souviens-toi. » Combien mon sacrifice t'a satisfait. Continue d'aimer, de bénir, bien qu'il chute encore et te provoque parfois. Les élus ont plusieurs échecs et faiblesses. Des restes de péché habitent encore en eux et se manifestent, mais les faiblesses qu'il leur reste sont couvertes par le sang que j'ai versé pour eux. Et pour nous, chrétiens, c'est nous saisir continuellement, nous rappeler continuellement, du coup, cette pensée. Ce matin, c'est un bon rappel. Alors peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le saviez pas, du coup vous découvrez. Mais c'est un bon rappel aussi pour nous, puisqu'on peut laisser facilement la voie de la culpabilité venir nous envahir. Et du coup s'éloigner du coup du chemin de Christ. Nous avons ici un immense privilège, un privilège qui est donné à tous les hommes, mais qui est, le salut est accompli en particulier, et surtout pour ceux qui ont mis leur foi en cela. Il n'est pas automatique. Il est accessible à tous, mais il n'est pas donné à tous. Il s'agit aussi, peut-être pour vous ce matin, qui n'avez pas fait cette paix avec le Seigneur, de pouvoir mettre votre foi en action. Pour que dans vos choix de vie, où c'est peut-être difficile, Dieu n'attend pas que vous soyez parfait. Sinon, vous allez attendre très longtemps. Il ne faut pas attendre quel que soit, non, il faut juste reconnaître que l'on est pécheur. Et du coup, attendre l'aide du Seigneur. Et il n'y a que le Seigneur qui est capable de nous aider à nous sortir de tel ou tel péché, ou peu importe ce que c'est d'ailleurs. Ça va? Est-ce que si vous avez des questions, c'est clair? C'est important, alors, hein, on parle d'un sujet de... Voilà, c'est sous le plan de l'ascension, mais un sujet de doctrine chrétienne importante, c'est la base de la foi, que nous puissions du coup être encouragés par cela. Est-ce que vous avez des questions, avant que je conclue? C'est bien silencieux ce matin. Oui, Gilles? Oui, je pourrais te la donner. Je peux te la donner après. Ouais. Alors du coup, pour conclure, vous avez d'autres questions? Il y a plein de textes hein, bibliques, il y a plein de versets, j'en ai cité quelques-uns, mais bon, je suis limité en temps. Voilà, un peu comprendre un peu du coup l'œuvre de Christ à la croix et du coup aussi ce que c'est à l'ascension. Ce matin, bon, il y a quand même deux erreurs avant que je conclue qu'il faut éviter à tout prix. La première erreur, et que nous pouvons penser, c'est que Jésus-Christ ne plaide pas pour nous devant un Dieu qui ne veut rien savoir. Ce n'est pas un avocat comme dans le monde, face à un juge qui regarde et qui voit. Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. Quand les auteurs, les apôtres, Jean, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ou même Pierre vont parler en tant qu'avocat auprès du Père, c'est surtout pour que les chrétiens se rappellent ce que Jésus a fait. Mais Jésus n'est pas là à plaidoyer envers le Père. Il n'y a pas deux dieux. On croit en un seul Dieu. D'ailleurs, c'est ce même Père qui a choisi notre avocat, cet intercesseur, Jésus-Christ. C'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui l'a ressuscité, c'est lui qui l'a élevé. Voilà. Le Père ici, il est partie prenante. Il n'est pas juste spectateur et il regarde. Voilà. Ça, c'est une mauvaise pensée qu'il faut chasser, puisque en plus ça attaque, voilà, à la Trinité, à ce que Dieu est en plus. Donc voilà. Et deuxième erreur, il faut jamais imaginer du coup qu'il y ait quelqu'un d'autre que Jésus-Christ qui peut être notre avocat. C'est important, voilà, on parlait d'avocat suprême qui est le Christ. Et ici je dénonce ici voilà la fausse doctrine des papes qui enseigne que Marie est notre avocate. Il y a Jésus, d'accord, mais il y a aussi Marie. Voilà, c'est le Concile de Vatican II qui va affirmer ceci, donc Concile de Vatican, qui va affirmer en toutes lettres hein, que Marie est notre avocate. Peut être du coup une des intercesseurs auprès des hommes, c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est pas elle qui est montée sur la croix, oui, mais si elle l'avait fait. Oui, bon, oui, c'est sûr qu'elle n'est pas ressuscitée puisqu'elle n'est pas montée sur la croix. C'est vrai, Johnny, mais si elle l'avait fait, Elle est humaine. Elle est humaine, et je vous rappelle la première phrase, hein. Tous les êtres humains sont pécheurs. C'est Jean qui va le dire, hein. Il n'y a pas marqué tous les êtres humains, sauf exception, après il y a un astérisque, et puis il faut regarder en bas de vos bibles, et puis il y a marqué le nom des gens. Non. Tous sont pécheurs, tous sans exception. Du coup, si tous sont pécheurs, il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre qui peut prendre notre place. Et puis, il y a un deuxième danger beaucoup plus grave, c'est que du coup, le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Et que du coup, Christ, on dit qu'il est suffisant, quelque part, bah, il n'est pas suffisant, puisque du coup, voilà. Là, c'est une dérive de l'hérésie ici papale. Voilà, c'est la tradition catholique qui l'a rajouté. Et ici, il s'agit de le chasser. C'est parce que la Bible nous le montre. La Bible ne montre pas cela. Pour expier nos fautes, il n'y a qu'une personne, Dieu lui-même, incarné en Jésus-Christ. Alors, pour conclure, une fois que j'ai dit ces deux points, je résume un peu ce que nous avons vu ce matin. Voilà, nous avons ici, ce matin, nous sommes tous pécheurs. Sans exception. Et si nous croyons en Jésus-Christ, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous croyons en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu nous laisse libres. Mais cette liberté, voilà, Dieu la propose à nous tous ce matin, et peut-être à vous ce matin, qui n'avez pas fait ce choix. N'attendez pas d'être parfait. Mettez votre foi en Dieu. Lui fera, avec l'aide de son Saint-Esprit, le ménage dans vos vies. Ce qu'il attend, c'est un cœur bien disposé. La purification et le pardon reçus par la foi, du coup, poussent à tout faire pour ne plus pécher, bien qu'il nous arrive encore de pécher. Mais dans son grand amour, Dieu nous rappelle le moyen qu'il a prévu, le moyen par lequel d'ailleurs nous sommes sauvés, et qui doit nous rattacher, c'est que nous avons quelqu'un auprès du Père, Jésus-Christ, qui, par ce qu'il est, a racheté toutes nos fautes. Amen. Pour nous, il s'agit de le saisir pour vivre une vie de chrétien épanoui, pleine de joie, une joie véritable et de paix. En 2010, quand moi j'ai saisi ce message, ma vie chrétienne a été chamboulée. Avant, c'était une vie chrétienne, je louais le Seigneur. Hein. C'était que des mots, mais je vivais rien. En fait, j'avais une mauvaise compréhension quelque part de Dieu. Quand j'ai saisi ça, ma vie chrétienne, ça a été un boulevard. Il n'y a plus de culpabilité. J'avançais, j'étais tout aussi pécheur. Hein. Mais je savais que j'étais racheté par Dieu. Et du coup, même dans mes combats personnels, je pouvais avancer plus facilement parce que je savais que j'étais enfant de Dieu et que mon salut ne bougeait pas d'un iota. Alors pour conclure, du coup, je vous mets, et puis je l'ai mis, je crois, alors je sais pas si je l'ai mis ou ça s'arrête là. D'accord. Ah ouais, c'est ça. Alors je vous remets du coup ces passages que j'ai lus au début de John Bunyan, du coup l'auteur du livre « Voilà, je suis pèlerin ». Je pense, voilà, il conclut bien un peu ce que nous pouvons traverser. Un jour, alors que je traversais les champs, la conscience assaillie par des remords, sachant que je n'agissais pas toujours de façon juste, une phrase me traversa l'esprit. Ta justice est au ciel. Avec les yeux de mon âme, je vis Jésus-Christ à la droite de Dieu. Je me dis donc que quoi que ce soit ou quoi que je fasse, Dieu ne pouvait pas prétendre que j'étais en manque de justice, puisque ma justice était à ses côtés. Je compris de plus que mes bonnes dispositions n'amélioraient pas ma justice, pas plus que mes mauvaises dispositions ne l'amoindrissaient. En effet, ma justice, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.